Bienvenue à cette première partie du discours. Donc un discours sur le thème de juste être, qui est un concept qu'on a déjà entendu et puis qui est extrêmement complexe en fait. Et plus on rentre dans... Au départ, ça nous dit quelque chose d'assez simple. En fait, il suffit de juste être. Ça peut sembler simple en tout cas. Si on n'y réfléchit pas, mais dès qu'on commence à y réfléchir, en fait, c'est vraiment pas si simple ce que ça implique et ce que ça veut dire. J'ai pas du tout la prétention de penser que je maîtrise ce thème, parce que comme je disais, voilà, c'est d'une profondeur insoupçonnable, en fait. Et ce qui est... Ce que j'espère intéressant, c'est d'amener des questions plus que des réponses. J'ai beaucoup de révérence en fait pour l'esprit qui questionne plus que pour l'esprit qui a des réponses. Et je pense que le fait de porter des questions profondes dirige un chemin beaucoup plus que des réponses. Et donc c'est pour moi la pratique spirituel nécessite d'avoir des bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, ce n'est pas si simple en fait. Et donc c'est mon intention ici est de partager les questions que je porte. Et bien sûr, pour partager des questions, il y a des essais de réponses qui nous permettent de poser d'autres questions. Mais ces essais que je propose, et c'est valable pour tous mes discours, ne sont que des essais et ne sont pas à prendre comme des vérités. Si vous avez du respect pour ce que je partage, j'apprécie, mais pas au point de croire que ce que je dis, c'est automatiquement vrai ou d'accorder une autorité, en fait. Mais plutôt, si vous avez l'impression que ce qui est partagé là a du sens, que ça donne une dynamique de questionnement et d'exploration. C'est un peu ça, en fait, l'attention. Donc, quand on dit juste être, qu'est-ce que vous mettez là-dedans? Le thème, alors certains peut-être, il est possible que certains sont venus sans même savoir le thème, parce que bon, les retraites d'un jour, vous aviez envie de faire une retraite d'un jour. Mais là, même si c'est le cas, même quand vous entendez juste être, ou quand vous pensez, tiens, qu'est-ce que ce serait de juste être? Qu'est-ce qui se passe dedans, en fait? C'est intéressant, je trouve, en général, c'est un désir que beaucoup de gens vont avoir de « j'aimerais bien de temps en temps juste être, ne plus être ceci ou cela, juste être ». Et comment, en fait, on a l'intuition que ce serait désirable? Comment est-ce qu'on sait que ce serait désirable de juste être? Qu'est-ce qui nous fait dire, en fait, que c'est désirable, que ce serait bien de juste être? Déjà, ça dit beaucoup par rapport à un cheminement qu'on a fait et aussi par rapport peut-être, au-delà d'un cheminement, à une intuition de quelque chose qui nous guide. Alors, pour savoir ce que c'est ou ce que ça veut dire, je pense qu'une grande partie du chemin, ça va être de savoir, non pas tellement discuter qu'est-ce que c'est juste être, mais plutôt qu'est-ce qui nous empêche d'être. Et en voyant et en ayant plus de clarté sur ce qui nous empêche d'être, quoi que ce soit que ça veuille dire à ce stade, à ce moment-là, on aura la possibilité de donner... de cheminer de manière à ce que ce qui nous a fragilisé et ne plus nourrir ce qui nous empêche d'être et nourrir ce qui nous permet d'être. Donc une grande partie de l'exploration se fait, à mon sens, sur les raisons qui nous empêchent d'être et pas sur le fait de juste être. On essaie de voir clairement, mais quelles sont les barrières à cet état, On va pas discuter pendant toute notre vie de ce que c'est cet état, mais plutôt de voir ce qui nous empêche de faire l'expérience de cet état. Et là, on comprend une des phrases de Bouddha qui disait toute ma vie, Bouddha il a enseigné pendant 50 ou 60 ans, je pense. J'ai eu de la chance là en Asie parce que nous, le Christ c'était 3 ans, c'était un peu court. Là, 50 ans, on a 50 ans de discours. Et pendant toute sa vie, le Bouddha, il a dit, pendant toute ma vie, en fait, je n'ai enseigné que la souffrance et la cessation de la souffrance. C'est intéressant comme affirmation. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore ce format, parce que je le trouve très très intéressant, en fait, cette approche. Qui est apparu dès le premier discours du Bouddha, où il parlait des quatre nobles vérités ou des quatre vérités des nobles. Et ces quatre nobles vérités, c'était la souffrance, les causes de la souffrance, la cessation de la souffrance et les chemins qui mènent à la cessation de la souffrance. Alors, la souffrance, dukkha, c'est un mot. Qui peut être traduit de plein de façons différentes. En français, en général, on dit souffrance, mais je pense que on pourrait dire par exemple la satisfaction. Là, c'est plus large, parce que la souffrance, c'est quand même déjà c'est fort. Mais la satisfaction, en fait, on regarde, si on regarde dans l'expérience du quotidien, il y a très souvent de la satisfaction qu'on peut remarquer. Et si on regarde finement, il se pourrait qu'il y ait tout le temps, quelque part, un état de légère insatisfaction. Qu'on n'arrive jamais vraiment à une complétude, à une satisfaction totale, même quand on obtient ce qu'on désire. C'est en tout cas ce que le Bouddha nous propose. De première chose, c'est de réaliser la présence de l'insatisfaction dans l'expérience humaine. Et puis, la deuxième. C'est les causes de la satisfaction. Quelles sont les causes de cette insatisfaction? Qu'est-ce que c'est qui est insatisfaisant dans l'expérience humaine? Et la troisième, c'est la cessation. C'est quand l'insatisfaction n'est plus là. Et peut-être si on remplace ça par juste être, alors c'est là que c'est la troisième noble vérité, juste être. C'est la cessation de l'insatisfaction. Et puis, tout un corps de discours sur les chemins qui mènent à la cessation de la satisfaction. Donc en fait, c'est la même chose. Et c'est vrai que j'ai l'impression que tous les enseignements spirituels, en fait, peuvent s'expliquer dans ces quatre nobles vérités. À chaque fois, c'est toujours de remarquer qu'il y a cette insatisfaction et qu'on cherche à transcender pour découvrir ou pour rentrer en contact avec une essence qui peut-être, elle, n'est pas accessible à cette insatisfaction. Je vais vous lire un passage que j'ai choisi du journal de Eti Lusum. C'est un passage que j'ai lu à la retraite aussi, certains d'entre vous le connaissent. Mais je vais en fait y tirer quelque chose d'autre. Que ce que j'ai été chercher à la retraite. Eti Lusum, c'est une juive hollandaise qui était pendant la période d'occupation à Amsterdam, l'occupation nazie, et puis qui écrivait un journal qu'on a retrouvé, et aussi quelques lettres pendant qu'elle était en camp de concentration. Et dans son journal, en fait, c'est un journal qui est très inspirant parce qu'elle explore. En fait, elle a clairement un regard spirituel sur elle-même, sur la manière dont elle veut vivre sa vie et aussi ce qu'elle ne veut pas vivre. Et ce qu'elle ne veut pas vivre, par exemple, une des choses qui est très présente dans son livre et qui est très inspirante, c'est qu'elle ne veut pas vivre la haine. Donc, en fait, elle refuse de laisser la haine rentrer en elle, alors que tous ses amis et tout ça, qui sont juifs et qui vivent des choses absolument de plus en plus terribles au fur et à mesure que le journal avance, de restrictions où ils ne peuvent plus rentrer dans tel type de magasin, ils ne peuvent plus prendre les petits chemins dans les forêts, ils doivent rester sur les routes. Et peu à peu, il y a des restrictions de plus en plus grandes et leur vie est de plus en plus difficile. Et la haine monte parmi ses pairs et elle refuse de laisser entrer la haine. Et elle cherche toujours à avoir un regard le plus élevé, le plus spirituel possible, sans que ça soit une négation de la réalité de la situation. Donc ça, c'est un extrait de son journal. Je dis que c'est moi qui me suis expliqué avec la souffrance de l'humanité. Donc là, c'est plutôt dans son journal, elle dit je m'explique avec la souffrance de l'humanité. Donc elle a beaucoup de réflexions sur la période. Et cette souffrance. Je dis que c'est moi qui me suis expliqué avec la souffrance de l'humanité. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Je me sens plutôt comme un petit champ de bataille où se vident les questions, ou du moins quelques-unes des questions posées par notre époque. Tout ce qu'on peut faire, c'est de rester humblement disponible pour que l'époque fasse de vous un champ de bataille. Je pense que ça peut beaucoup nous parler, ça aussi, par rapport à notre époque, hein, où on a des grandes questions, des questions immenses, en fait, au niveau de l'écologie, de l'équité sociale. Ces questions doivent trouver un champ de bataille, un champ clos où s'affronter, un lieu où s'apaiser. Et nous, pauvres petits hommes, nous devons leur ouvrir notre espace intérieur et ne pas les fuir. Je suis peut-être à cet égard un peu trop accueillante. Je suis parfois le théâtre d'affrontements sanglants et j'en paye de temps en temps le prix par une immense fatigue et de terribles migraines. Mais pour l'instant, je ne suis plus que moi-même, Ethilusum, une étudiante appliquée dans une chambre riante avec des livres et un vase de marguerites. La rivière que je suis a sagement regagné l'étroitesse de son lit. Le contact avec l'humanité, avec un grand H, l'histoire du monde, avec un grand H, et la souffrance, avec un grand S, est rompu. Heureusement, ce serait à devenir folle. On ne doit pas se perdre continuellement dans les grandes questions. Être un champ de bataille perpétuel. Il est bon de retrouver chaque fois ses étroites limites personnelles. Je pense, et ça c'est ce dont je parlais à la retraite, je pense que déjà c'est un bel enseignement sur quelle attitude, c'est une belle description d'une attitude à avoir par rapport aux grandes questions que notre époque pose, de manière à ne pas les fuir, mais aussi d'avoir suffisamment de précautions pour ne pas les laisser être tout le temps en nous et tout le temps nous habiter, parce que ça détruit alors. Mais là, ce qui m'intéresse dans sa description, on a l'impression en fait que quand elle est un champ de bataille et qu'il y a les grandes questions, il y a quelque chose où elle embrasse le monde, où tout est en elle, toutes les grandes questions sont en elle. Et puis à un moment, il y a quelque chose où elle laisse tout ça de côté et elle revient à quelque chose de plus simple. Et Ethilusum, qui est une étudiante, elle redevient une étudiante. À ce moment-là, il y a sa plante verte, il y a les livres, donc c'est sa chambre. Et elle laisse cette réalité qui, en fait, se produit elle se produit à l'extérieur, bien sûr, mais elle se produit dans son esprit. Les grands combats se produisent à l'intérieur d'elle-même. Elle les laisse de côté. Et elle redevient juste Ethilusum. Déjà, on voit là-dedans une autre manière d'être, dans laquelle il y a, j'ai envie de dire, comme une réduction. Et cette réduction, c'est une simplification. C'est plus simple, en fait. Elle revient à une vie plus simple, à une identité plus simple. Et c'est ce qu'on fait avec la méditation. Avec la méditation, en fait, quand on ne nourrit pas nos pensées, ce qu'on ne nourrit pas aussi, c'est notre image de nous-mêmes et l'image du monde. Parce que notre image de nous-mêmes et l'image du monde, elle est constamment existante en nous parce qu'on lui donne constamment notre attention. En fait, on crée seconde après seconde, minute après minute, tout le temps, notre identité, l'identité du monde, notre relation, l'identité de chaque personne extérieure. Donc on crée tout un univers. Quand je dis peut-être on pourrait dire le cerveau, pour le moment. Hein. Je lisais récemment je ne sais pas comment ils calculent ça, mais les neuroscientifiques actuels pensent que le cerveau produit 1 milliard de milliards d'activités à la seconde. Donc c'est déjà 1 milliard, moi j'ai du mal à concevoir ce que ça veut dire, mais fois 1 milliard, ça devient vraiment, vraiment beaucoup. Et en fait, c'est toute cette activité cérébrale qui participe à notre expérience du monde. Sans cette activité cérébrale, il n'y aurait pas d'expérience du monde. Ou qu'est-ce qu'il y aurait en fait? Ça peut rester comme une question. Mais il est clair que cette activité cérébrale constante, alors dans le sommeil profond, je serais curieux de savoir combien il en reste, mais dans le rêve, déjà beaucoup plus, et très certainement dans l'état de veille comme ce moment, en fait, il y a une activité immense de cette machinerie gigantesque. En fait, qui est petite en taille, mais qui est d'une complexité et d'une puissance, en fait, et qui interprète, interprète, interprète. Et c'est cette interprétation qu'on appelle la réalité. Hein? C'est ça qu'on perçoit. Et quand on pratique la méditation, quand on décide de consacrer un temps à peut-être un peu plus juste être, à moins nourrir les histoires de notre vie, les contextes de notre vie, automatiquement, cette activité cérébrale ralentit. C'est-à-dire que à partir du moment où on est installé dans notre posture, et que chaque fois qu'une pensée démarre et qu'on remarque qu'une histoire démarre, hein, toutes les histoires, en fait, c'est toutes ces histoires qu'on se raconte depuis qu'on est tout petit et qu'on nous raconte depuis qu'on est tout petit, qui forgent notre identité et l'identité du monde qu'on porte en nous. Et pour qu'elle soit là, il y a besoin qu'elle soit entretenue, comme je le disais auparavant. Et quand en méditation, on retire notre attention, parce que c'est notre attention qui permet que ces histoires continuent à être nourries. C'est notre attention nourrie, en fait. Si on ne donne pas, et ça c'est quelque chose, typiquement, c'est quelque chose à vérifier, pas à croire, dans la mesure où on retire notre attention de ses pensées, est-ce qu'elles continuent? Maintenant, c'est à faire en méditation, c'est à remarquer, on est supposé être avec la respiration, mais en fait, on est complètement parti dans une histoire. Ça, c'est le grand classique et l'expérience de nous tous ici dans cette pièce. Hein. Mettons-nous tout de suite à l'aise. Et là, on remarque qu'on est parti dans cette histoire. À ce moment-là, il s'agit d'une histoire peut-être quelque chose qui tourne en rond, d'une grande décision à prendre. Cette histoire-là, on la connaît bien d'une certaine manière, mais là, comme c'est notre attention n'est pas de rester dans l'histoire, on l'arrête, c'est-à-dire qu'on décide pas, on n'essaye pas de ne pas penser, on amène notre attention ailleurs que sur la pensée. C'est pas la même chose, c'est pas la même démarche. On amène notre attention, par exemple, sur la sensation physique de la respiration. On essaie de sentir tout l'inspire, tout l'expire, tout l'inspire, tout l'expire. Est-ce que l'histoire continue? Est-ce qu'elle peut continuer? Ou est-ce que, pour qu'elle puisse continuer, elle a besoin de reprendre notre attention? Est-ce que ce qui existe dans notre expérience, ce n'est pas ce qui est là dans notre attention? Est-ce que quelque chose qui n'a pas notre attention peut vivre en nous? Ça, voilà, quand je disais trouver des bonnes questions, ça, c'est des questions qui me plaisent. Parce que on peut savoir ça. C'est juste une question d'y passer du temps et d'observer et de chercher, comprendre la question et puis se dire, mais ouais, mais c'est vrai ça. Est-ce que quelque chose qui n'a pas mon attention peut exister en moi? De quelle manière? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok. Et c'est pas juste en réfléchissant avec la psychologie, la conscience, le subconscient et ce genre de choses, mais dans mon expérience. Donc, Etiel Oussoum, elle retire son attention de cet immense champ de bataille, de ces grandes questions que l'époque pose, pour ramener son attention juste à ce qui est là, sa chambre, ses livres, sa plante, sa petite identité d'étudiante, hein, une identité plus réduite. Et nous, en méditation, ce qu'on fait, on fait le même processus, on est sur la même échelle, mais on va plus bas. C'est-à-dire qu'on retire aussi notre attention de cette identité. C'est-à-dire que moi, au moment où, quand je suis dans ma pratique de méditation, s'il y a des pensées qui me viennent à propos de mon travail ou à propos de mes enfants, je les arrête. C'est-à-dire que je retire mon attention, je reviens à la respiration. Et automatiquement, je réduis mon identité. Donc ce que je suis, ce que je me sens être, c'est moins un père de famille, c'est moins un enseignant de méditation, c'est moins un homme dans cette société, c'est moins ceci, c'est moins cela en fait. Dans mon expérience, ça n'apparaît plus, cette identité n'apparaît plus parce que je ne lui donne pas mon attention. Vous me suivez? Pour que cette identité apparaisse, il faut que je lui donne mon attention. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est réduire. Réduire, réduire pour être de moins en moins ce qui est d'habitude toujours là. Cette sensation de je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, il se passe ceci, ça c'est mon métier, ça c'est ce que je fais, ça c'est ce que j'aurais dû faire, là sont mes échecs, là sont mes réussites, ça c'est mes traits de caractère, ça c'est mes buts dans la vie, mes amis, les gens avec qui j'ai des difficultés, c'est tout depuis notre naissance. Ça s'est construit, 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 construit pour devenir une identité extrêmement complexe qu'on appelle moi, qu'on appelle je. Et donc, on pratique cette réduction. On pratique être de moins en moins quelque chose. Et peut-être que juste être, si on suit cette logique, c'est n'être personne. Juste être, c'est pas être quelqu'un. Juste être, c'est n'être personne. C'est enlever notre attention de tout ce qui fait notre spécificité, notre différence, et la ramener là à la perception directe de quelque chose qui est en moi. La même chose que ce qui est en chacun d'entre nous. Plus on réduit, moins on est différent. Plus je me rapproche de mon centre, plus je rentre en contact avec quelque chose qui est pareil en chacun. Petit extrait d'un livre que j'ai lu récemment de Nancy Houston, qui est romancière. Mais qui écrit là un livre sur une compréhension qu'elle a de la capacité de l'humain à fabuler. Ah, donc en tant que romancière, évidemment, elle est la première intéressée, mais là, elle a des points très intéressants, je trouve. Ça s'appelle l'espèce fabulatrice. Fœtus humain, fœtus chimpanzé. Identiquement lovés dans le ventre de leur mère, identiquement expulsés, nettoyés, nourris et soignés par leur mère. Mais à leur rejeton, les parents chimpanzés ne donnent pas un nom, ne chantent pas fais dodo colle à mon petit frère, ne disent pas mon bébé, mon petit chéri, et ne lui apprennent pas sa généalogie. Le petit humain apprendra à dire moi. Je, le chimpanzé, non. En pénétrant dans notre cerveau, les fictions le forment et le transforment. Plutôt que nous ne les fabriquons, ce sont elles qui nous fabriquent. Bricolant pour chacun de nous, au cours des premières années de sa vie, un soi. On ne naît pas un soi, on le devient. Le soi est une construction péniblement élaborée. Loin d'être toujours là en attente de s'affirmer, c'est d'abord un cadre vide, ensuite une configuration mobile en transformation permanente. Pour disposer d'un soi, il faut apprendre à fabuler. On l'oublie après commodément, mais il nous a fallu du temps et beaucoup d'aide pour devenir quelqu'un. Il nous a fallu des couches et des couches et des couches d'impressions reliées en histoire, chansons, contes, exclamations, gestes, règles, socialisation. Et c'est vrai qu'on oublie. C'est vrai qu'on oublie que toute une partie de notre expérience de nous-mêmes, c'est quelque chose qui a été construit, qui s'est construit dans le temps. Et tout ce qui s'est construit peut être déconstruit, peut être construit différemment. Ce n'est pas une réalité ultime. Et c'est problématique qu'on oublie, en fait, que cette identité qui s'est fabriquée dans le temps est une identité relative et nécessaire mais illusoire. Nécessaire mais illusoire. Nécessaire parce que c'est avec cette identité-là qu'on fonctionne dans un monde et on a besoin de cette identité pour fonctionner. Mais illusoire dans le sens où, à partir du moment où on arrête de la nourrir, cette identité-là n'apparaît plus. Et ça, c'est ce qu'on peut voir en méditation. Et ça, c'est ce qu'on peut apprendre en méditation. C'est apprendre à désengager notre attention de ce chantier permanent qu'est la construction d'une identité et la maintenance. Ce n'est pas que la construction. Là, elle met l'emphase, Nancy Houston, sur la construction, mais la maintenance. Il y a une... Dès le moment où on s'éveille, et parfois on peut le sentir, dès le moment où on s'éveille, c'est presque comme quand on allume un ordinateur et que tout se remet en place. Il y a tout le cadre avec les histoires de la veille jusqu'à cette sensation d'identité. Et ça, c'est un travail permanent. Et en méditation, ce qui est important pour moi, à mon sens, c'est pas tellement... Pour moi, le but de la méditation, c'est pas la paix de l'esprit. Pour moi, le but de la méditation, c'est la connaissance de l'esprit, et c'est cette connaissance qui amènera une manière d'être juste dans la vie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas... Quand on pratique la méditation, et ça, je pense que c'est, si vous le comprenez déjà, ça va faciliter grandement votre pratique, le but n'est pas d'être tout le temps présent, sans penser, dans le moment. Le but n'est pas que ça marche tout le temps, en fait. Cette notion de ça marche, là. Je suis pleinement là, je n'ai pas beaucoup de pensées. S'il y a des pensées, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui pense, qu'elles sont juste là, et je me sens vaste et tout. Bah, c'est des beaux moments, c'est super. Hein. Ça, ils ont leur place, en fait. Mais ce qui est important, surtout, c'est de remarquer comment notre sens d'identité est en constante évolution et changement sur une échelle de très dense. Quand on est pris, par exemple, dans des pensées de frustration, par exemple. Imaginez que vous avez vraiment une raison ou une colère, une grosse colère vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de quelqu'un, et vous êtes en méditation, mais en fait, vous êtes la colère à ce moment-là. Il n'y a que la colère de cette situation et tout. À ce moment-là, quand il y a la colère, il y a une grande densité de sensations de moi-je. Moi, je sais ce qui est juste. Hein, la colère fait ça. Souvent, même, on nourrit la colère parce que comme ça, au moins, on se sent juste. Hein, parce que si lui, il se trompe et il a tort, et le monde, le gouvernement, on nourrit, parce que moi, je sais, moi. Ça me fait sentir juste, en fait. Donc, dans les moments de colère, il y a une grande densité de la présence de l'ego, de la personne qui est là très, très fort. Et puis là, à un moment, la méditation passe à autre chose. Parfois, on n'arrive pas à le faire passer à autre chose, mais parfois, magiquement, ça se fait tout seul. Il y a quelque chose qui lâche. Et 5 minutes après, ce n'est plus du tout à propos de la colère. C'était comme un ouragan qui est passé. Et là, il y a le calme qui s'installe. Comme dans une forêt où les arbres arrêtent de bouger, tout devient extrêmement calme. On sent ça à l'intérieur de nous, il n'y a plus la colère. À ce moment-là, notre identité, elle est différente. à ce moment-là, on n'est plus cette densité de moi et puis le monde autour, mais on est plus quelque chose de vaste, de paisible et de proche des autres. Et du coup, là, il va y avoir beaucoup plus une sensation d'interconnexion, de pouvoir voir dans toute chose, se voir soi-même. Il va y avoir une sensation d'intimité et d'authenticité. Quand je prends plusieurs directions en même temps, donc je recule un petit peu, je parlais de cette échelle. Hein. Ce qui est important pour moi, plus que d'arriver à la paix de l'esprit, pour moi, ce qui est important, c'est de remarquer cette sensation d'identité fluctuante, constamment fluctuante, comme je la décrivais dans cette densité, par exemple, de la colère, jusqu'à ces moments où, très diffus, où il y a pratiquement plus, il y a plus énormément de pensées. S'il y a des pensées, on n'a pas l'impression que c'est nous qui pensons dans ces moments-là. Il y a des pensées. On n'en est plus à, oh là là, je suis encore en train de penser, il faut que je m'arrête de penser, j'étais là pour méditer, et puis du coup, c'est n'importe quoi, j'y arrive pas, et tout ça. Là, ça, c'est à un moment, on sent ça, peut-être à certains moments de notre méditation, mais à d'autres moments de notre méditation, s'il y a des pensées, on va avoir plus la sensation que, ben, il y a des pensées, en fait, c'est pas moi qui pense. Quand on a cette sensation-là, en fait, il y a moins de jeu, il y a moins de moi. Notre identité est moins présente, on pourrait dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que notre identité est moins présente, mais on se sent plus présent. Vous voyez la différence? Notre identité est moins présente, moins construite. Notre attention n'est pas toute sur nos histoires et ce qui font qu'on est ceci et cela et qu'on n'est pas ceci et pas cela. Elle n'est plus là-dedans. Elle est désengagée, en fait. Et la sensation qui nous reste est une sensation de présence. Et cette sensation de présence, c'est là que j'étais, a un cachet authentique. On sent que c'est juste, on sent que c'est vrai, on sent que c'est un contact vrai avec nous-mêmes, que ce n'est pas une histoire qu'on se raconte. Ce n'est pas comme si c'était encore un délire de l'esprit. Là, on sent qu'il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose d'intime, et il y a quelque chose de connu, il y a quelque chose de nous-mêmes où on sent que ça, c'est nous. C'est nous, et c'était déjà nous quand on était gamin, ça. Là, les histoires, elles ont changé. Ce qui nous traumatisait ou ce qui nous enthousiasmait quand on était gamin, bah, essayez de vous rappeler ce que c'était dans la cour de l'école. Ce n'est pas du tout ce qui nous traumatise ou ce qui nous enthousiasme maintenant. Ça a changé. Ça, c'est nos histoires. Et qui on est par rapport à quand on est gamin, dans la construction de l'identité, par rapport aux autres, et tout, c'est tendu, c'est pas facile, hein. Et maintenant, c'est autre chose. Tout ça a changé. Mais dans ce moment-là, quand ça n'est plus là, notre expérience, c'est la même que celle de quand on était gamin. C'était déjà la même chose. Donc c'est pour ça, ça nous donne la sensation qu'on touche à quelque chose de plus vrai, de plus continu, de plus sous-jacent à toutes ces histoires. Et tout ça est bien sûr en lien avec ce thème de la souffrance ou la satisfaction. Je crois que c'était ce philosophe indien, bouddhiste indien, Shantideva, qui disait moins de jeu, moins de souffrance. Plus de jeu, plus de souffrance. Quand on vit à cet endroit de nous-mêmes où on est j'ai envie de dire cette identité superficielle, et je ne suis pas du tout méprisant par rapport à notre identité superficielle. Le mot superficiel est peut-être pas bien choisi. Je préfère cette identité construite. Elle est superficielle parce que si on prend comme si on était un oignon, c'est les couches extérieures de l'oignon. Hein, c'est celles qui sont venues après qui se sont construites. Même la dernière, elle est un peu sèche. Mais quand on prend notre identité superficielle, quand on vit à cet endroit-là, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de tensions mentales, ça génère énormément. Le Dalai Lama prenait cet exemple, c'est comme vivre tout le temps à la surface de l'océan, là où il y a ces grandes vagues et tout, ça remue tout le temps. Mais il y a le fond de l'océan aussi. Et là, rien ne bouge. Et c'est silencieux. C'est un peu. Voilà, et tout ça, c'est nous. Et il ne faudrait pas dire, oh, il faudrait qu'il y ait que le fond de l'océan qui existe et qu'il n'y ait pas de surface. Non. On a besoin de toute cette dimensionnalité, en fait, de notre existence. Je pense que c'est un des grands dangers de certains enseignements spirituels, c'est de nier la nécessité de cette réalité construite, ce monde illusoire. Oui, il y a une notion illusoire, bien sûr, mais pas inutile. Pas inutile. Au contraire, il nous faut faire des très belles constructions. Hein, il nous faut une belle identité construite. Et ça, de travailler à l'identité construite, c'est le développement personnel. Ici, quand on parle d'aller à cet endroit où plus rien ne bouge, ça c'est sortir de l'histoire. C'est pas la même chose. Ce n'est plus du développement personnel. Je vais vous lire un. Donc hier, je faisais une journée de méditation sur le même thème à Filine-Minervois et sur la porte du lieu où on était, il y avait un. Une phrase que je vais vous lire de Hélène Dorion. Vient le jour où l'on quitte la gare, enfermé depuis toujours, on cesse soudain de chercher des abris. On lâche les amarres, tout s'allège et le ciel s'entr'ouvre. Donc vient le jour où l'on quitte la gare, enfermé depuis toujours, on cesse soudain de chercher des abris. Et c'est ça, en fait, pour moi, l'essence de la spiritualité, c'est quitter la gare. C'est pas repeindre la gare. C'est pas agrandir la gare, la faire plus belle, la remeubler. C'est nécessaire de repeindre la gare. Ça restera notre chez nous aussi. On y reviendra. Donc, pour moi, il y a cet endroit, le développement personnel, ça va être de repeindre, d'agrandir, d'aménager, de faire plus fonctionnel. Ça, c'est le développement personnel. Mais la pratique de la méditation, à la manière dont je l'entends, c'est quitter l'histoire. C'est ne plus être personne. C'est apprendre à découvrir cet endroit de nous-mêmes dans lequel toute idée à propos de nous-mêmes n'apparaît plus. Et dans lequel nos réussites et nos échecs n'existent pas. Donc, ce que je vous propose dans cette journée, dans cette journée de pratique, ça va être d'être attentif, une attention non jugeante à tous nos états d'être, à quel endroit on se trouve. Hein? Dans la méditation, vous allez voir, on est tout le temps quelque part sur cette échelle de n'être absolument personne si l'esprit est complètement inactif, de vraiment être proche à ce moment-là, peut-être de juste être, mais de ne plus être quelqu'un. Ça, c'est à une extrême. Et à l'autre extrême, d'être vraiment pris dans l'histoire de nous-mêmes, à un endroit de l'histoire de nous-mêmes, et tous les entre-deux. Et d'essayer de remarquer, en fait, qu'on navigue sur cette échelle. Merci pour votre écoute.
Ce discours a été mis à votre disposition par l'association Dharma Nature. Pour soutenir l'association et Denis Roberex, l'enseignant, rendez-vous sur www.dharmanature.org/donation. www.dharmanature.org/donation.